sur le continent africain.
Merci beaucoup Yacouba et place maintenant à nos invités pour débattre de tout cela. À Kinshasa, nous avons Père Jean-Baptiste Malengue, vous êtes prêtre, journaliste, correspondant de Radio Vatican RDC. Vous êtes également envoyé par la conférence épiscopale pour couvrir la visite du pape. Je signale également que vous êtes professeur de philosophie. Et ici aux États-Unis, à Philadelphie, nous avons le professeur Jean-Claude Djereke, vous êtes docteur en philosophie contemporaine, également auteur de plusieurs ouvrages, dont Réflexions sur l'Église catholique en Afrique. Merci à vous deux. Alors, je démarre avec vous, Père Jean-Baptiste. Certains diraient, après 38 ans, il était temps que la RDC, le pays africain avec le plus grand nombre de catholiques, reçoive enfin le pape François. Pourquoi cette visite est, selon vous, importante?
Alors, si vous signalez que cela fait 38 ans que nous avons reçu un précédent pape, Jean-Paul II. Entre-temps, il y a eu la guerre depuis plus de 25 ans maintenant. Le pays est entré dans une sorte de tourbillon. Il y a la violence, il y a la guerre incessante. Et il était temps que le pape vienne pour nous consoler, parce que le pape vient de la part des dieux. C'est la foi chrétienne, la foi catholique. Et donc, si Dieu est le meilleur consolateur, il convenait que le pape en personne vienne nous saluer. Et d'ailleurs, lui-même, le pape François, a dit qu'il avait hâte de venir, qu'il a désiré de tout son cœur depuis longtemps de venir dans ce pays. Il a reporté le voyage, c'était prévu en juillet 2022, il a reporté pour des raisons de santé. Et maintenant, il est arrivé, il a dit tout son soulagement. Et depuis qu'il est arrivé, c'est la liesse dans ce pays. Tout le monde alors, est consolé.
Oui, vous dites donc qu'il est venu pour consoler les Congolais. Plus de 700 journalistes qui couvrent quand même cette visite. Vous pensez que cela peut aider, disons, à s'intéresser davantage à la question sécuritaire et ce que le pape lui-même appelle le colonialisme économique, à attirer l'attention du reste du monde, peut-être
C'est tout dire, c'est tout dire. 700 journalistes, effectivement, aussi bien des nationaux que des journalistes du monde. Ils sont venus, nous étions, moi j'étais dans l'avion avec 74 autres. Et donc, nous sommes là, et si enfin la voix du Congo, de la République démocratique du Congo, pouvait être entendue, écoutée sans intermédiaire, pourquoi pas, ce serait, espérons-nous, une manière privilégiée de se faire comprendre, finalement. D'accord. Mais pour les journalistes qui arrivent aussi du monde, c'est une occasion pour eux de l'apprendre par eux-mêmes, n'est-ce pas, que pour un journaliste, il convient de toucher du doigt soi-même, rien ne remplace une expérience que l'on peut faire soi-même sur terrain.
Alors, professeur Jean-Claude Djereke, l'Église, on le sait, est une institution influente, mais est-ce qu'elle peut se faire entendre, surtout sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC, qui est un peu aujourd'hui la question d'actualité?
Ah oui, je pense que la question sécuritaire est liée à la question des richesses, des ressources minières dont on a parlé dans le reportage, c'est-à-dire le cuivre, l'or, le diamant, le cobalt et d'autres richesses minières. Et il y a une sécurité aujourd'hui à l'est du Congo, de la RDC, parce qu'il y a des puissances étrangères, des multinationales, mais aussi des voisins, l'Ouganda, le Rwanda, et même, je dirais, certains Congolais sont complices de ça. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait que la région est dans une insécurité incroyable aujourd'hui. Vous voyez, donc l'Église, et je crois que le pape a commencé d'ailleurs, a commencé en parlant de ça, en dénonçant ce colonialisme économique. Et moi je pense que le pape François a tracé, n'est-ce pas, la voie, il a montré le chemin. Ça veut dire que les prêtres, les évêques, il faut qu'ils s'engouffrent dans cette brèche-là. Il faut qu'ils dénoncent tous ceux justement qui pillent les richesses de la RDC.
Au-delà, justement, le message du pape, quelle peut être sa portée, professeur? Au-delà, c'est un débat qui n'est pas nouveau, mais qu'est-ce que le pape peut apporter de nouveau, selon vous, en termes, ce serait peut-être en termes, disons, d'exposition au niveau mondial, d'exposer le problème de façon plus concrète?
Oui, vous voyez, depuis un bon moment, on nous parle de l'Ukraine. Vous voyez. Or, la tragédie de la RDC, elle ne date pas d'aujourd'hui. Si je ne me trompe, si je ne m'abuse, je crois que ça a commencé depuis 1997. Vous voyez. Mais les médias occidentaux n'en parlent pas. Vous voyez. Il y a eu des millions de morts, plus qu'en Ukraine. Mais on n'en parle pas. C'est scandaleux. Vous voyez. Et donc, je pense que la visite du pape va mettre en lumière cette tragédie-là, ce drame. Vous voyez. Parce que tout à l'heure, on disait qu'il y a au moins certains journalistes qui l'accompagnent. Donc, ces médias-là vont en parler. Hein, et je crois que vraiment, c'est à mon avis la chose vraiment la plus positive de ce voyage-là. D'accord. C'est-à-dire, grâce à la visite du pape, le monde entier va enfin savoir qu'il y a quelque chose d'inacceptable qui se passe en RDC.
D'accord. Alors, Père Jean-Baptiste, l'Église a une longue histoire d'engagement politique dans le champ politique, mais également de médiation entre acteurs politiques. Comment la visite du pape peut aider à faire baisser un peu la tension, surtout dans ce contexte préélectoral en RDC?
D'abord, lorsque vous dites que l'Église a une longue histoire dans l'engagement politique, disons plutôt, et vous l'avez corrigé vous-même, dans la médiation.
Absolument.
Parce que l'Église se fait au milieu du village, comme on dit. Et effectivement, l'Église catholique, c'est elle qui dénonce d'abord, oui, je dois dire, avec le professeur Jéréquet, que l'Église dénonce, c'est vrai. Mais l'Église annonce aussi ce qu'il convient de faire pour le vivre ensemble. Et l'Église catholique a l'avantage d'être universelle, c'est-à-dire aussi de pouvoir porter à l'étranger la voix et la souffrance du peuple congolais. De sorte que beaucoup se réfèrent à l'Église, comme vous-même vous le faites aujourd'hui, me semble-t-il, à la faveur de la visite du pape. Beaucoup se réfèrent donc à l'Église pour savoir ce qui se passe, tout simplement, à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'Église peut faire concrètement? L'Église a toujours joué la médiation. On peut penser qu'avant cette situation qui date des années 90, on peut penser même du temps de la colonisation. Remontons même un peu plus loin. On ne remonte pas au déluge, mais allons-y. Du temps de Léopold II, de la colonisation belge, c'est l'Église catholique qui a dénoncé des exactions, des violations des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, on peut compter sur l'Église catholique d'abord, à mon avis, pour donner cette information dont le monde a besoin. Il faut entendre parler de ce qui se passe. Les intérêts politiques n'ont parfois aucun avantage à en parler. L'Église donc va l'annoncer, le dénoncer même. Mais l'Église aussi participe à l'éducation du peuple de Dieu. D'accord. L'Église est là d'abord pour annoncer l'Évangile. Et l'Évangile, c'est un message. C'est la bonne nouvelle de la paix. Depuis la Noël, les anges arrivent et ce qu'on annonce avec la naissance de l'enfant de Bethléem, c'est la paix. Donc c'est ce discours sur la paix qui se perpétue, mais aussi l'éducation à la base, de toutes les couches jusqu'à la classe politique elle-même. Il y a beaucoup de catholiques qui sont partie prenante, évidemment, dans ce qui se passe. Alors l'Église essaye de former les consciences pour qu'on évite la guerre, pour qu'on aime le prochain. Quand on aime son prochain, on ne lui fait pas la guerre, on ne les tue pas, on applique le commandement de Dieu et le cinquième des 10 commandements demande de ne pas tuer.
Alors, professeur Jean-Claude Jéréquet, justement, l'Église et la politique, ce n'est pas seulement l'Église, mais les religions de façon générale et la politique, ce n'est pas toujours un compagnonnage facile, même si quand il y a des crises, on demande à ce que les religieux participent, en tout cas à décrisper un peu la situation. Qu'est-ce qui peut faire la particularité de la RDC? On connaît un peu l'implication de la CENCO, par exemple, dans les missions de médiation. Comment est-ce que la situation peut être décantée pour le cas de la RDC, par exemple?
Bon, je voudrais d'abord rappeler que dans l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire les années 90, on a eu un certain nombre d'évêques catholiques au Togo, dans les deux Congos, au Bénin, où ça a d'ailleurs commencé, qui ont joué justement ce rôle de médiateur. Parce que les acteurs politiques n'arrivaient pas, n'est-ce pas, à s'entendre, à se faire confiance. Donc, ils se sont tournés vers des hommes d'église. Et je pense que, à part le Bénin, ça ne s'est pas très bien passé. pas parce que bon, ces évêques n'étaient pas à la hauteur, c'était pas ça, mais je crois que, vous savez, dans la vie politique, il y a des gens qui ne sont pas sincères. Il y a des gens qui ne sont pas sincères.
C'est un peu quand il y a crise, on veut que l'Église intervienne, mais quand ils interviennent dans un sens qui peut-être n'est pas dans un discours qu'ils attendaient, on voit les critiques envers ces institutions.
Oui, c'est ça, parce que si je prends le cas par exemple de la RDC, c'est ce qui s'est passé. C'était Monsengo qui était, n'est-ce pas, le médiateur, hein, le président de la Conférence nationale souveraine. Mais on a vu que Mobutu, par exemple, ne joue pas franc jeu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, la conférence a échoué. Vous voyez? Donc, je crois que l'Église, ce rôle-là, à mon avis, quand elle est sollicitée pour jouer ce rôle, il faut qu'elle le joue. Parce que je crois que ça fait partie de sa mission. Hein, aider les gens, les hommes politiques, n'est-ce pas, à trouver un consensus. Hein, je pense que ça fait partie de sa mission. Mais, comme je dis, les hommes politiques ne sont pas toujours sincères. Et c'est ce qui fait que, parfois, cette médiation-là n'aboutit pas.
D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Léon Mukuna est à Kananga, c'est en RDC. Il dit, la visite du pape est très importante car... le pape apporte un message de paix et intercède en faveur de ce pays menacé par les rebelles qui tuent la population jour et nuit. Jonas Malala, il est à Kisantu, toujours en RDC, il nous dit que la visite du pape François en RDC s'inscrit en deux volets. Le premier, c'est de prier avec les Congolais pour les consoler face à l'injustice qu'ils subissent. Et le deuxième volet, c'est d'apporter un soutien haut et fort au peuple congolais pour demeurer dans le Christ. Il ne s'agit pas d'apporter un soutien politique. Et puis Charles Bazema est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il écrit que tout pays au monde aimerait avoir la visite d'un pape de Dieu, d'un homme de Dieu, car c'est très important, mais l'arrivée du pape François ne changera rien à la situation sécuritaire qui prévaut en RDC, encore moins à la mauvaise gouvernance. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
C'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons deux éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangwe Mukili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.
Retrouvé pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Kinshasa, le père Jean-Baptiste Malengue, prêtre, journaliste, correspondant de Radio Vatican RDC et également envoyé par la conférence épiscopale pour couvrir la visite du pape. Et ici aux États-Unis à Philadelphie, nous avons Jean-Claude Djereke, docteur en philosophie contemporaine, auteur de plusieurs ouvrages dont Réflexion sur l'Église catholique en Afrique. Alors, Père Jean-Baptiste, un catholique sur cinq dans le monde se trouve en Afrique. Un tiers des structures sanitaires et des écoles catholiques également se trouvent en Afrique. Il est évident donc, de l'avis de beaucoup d'experts et d'observateurs, que c'est le continent sur lequel l'Église devrait le plus compter pour son expansion. Pensez-vous que c'est le cas, que l'Église... accorde l'attention que l'Afrique mérite, disons, aujourd'hui.
Oui, c'est évident. D'abord, il n'y a qu'à regarder des chiffres, hein, vous en avancez là, effectivement. Lorsqu'on voit la croissance démographique en Afrique, évidemment, dans un pays comme la République démocratique du Congo, la moyenne d'âge, c'est 18 ans, n'est-ce pas? Vous allez voir que de l'autre côté, dans d'autres continents, ça baisse. Mais cette jeunesse, c'est une jeunesse qui croit en Dieu. Aujourd'hui, 2 février, à Kinshasa, à matinée, le pape François a prié avec les jeunes. Il a prié pour eux. Il leur a fait une catéchèse, un enseignement. Le stade de 80 000 places était rempli. Alors, c'est cette jeunesse qui est l'Église de demain, n'est-ce pas? On peut dire autant de beaucoup d'autres pays d'Afrique. Donc, du point de vue démographique, effectivement, il faut compter avec l'Église en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Mais il y a aussi, et que c'est un peuple qui croit, et de plus en plus, nous parlons de vocation religieuse et sacerdotale, il y a beaucoup de consacrés, beaucoup de prêtres que le pape est en train de recevoir l'après-midi du 2 février à Kinshasa. Et il faut dire aussi que c'est que vous avez relevé l'engagement dans le social, l'éducation, la santé, les orphelinats, toutes les structures. Et maintenant, de plus en plus, depuis les dernières décennies, l'éducation civique, bon, cela promet effectivement un souffle dont le monde a besoin. On pourrait même aller plus loin, vous savez, lorsque le président Félix Tshisekedi a reçu le pape François, il a commencé par faire l'éloge de l'Église catholique en rappelant, en citant le pape François lui-même, notamment dans son encyclique Laudato Si sur l'environnement, l'écologie, la maison commune, comme dit le pape. Et le Congo qui se veut un pays solution pour l'environnement, peut compter sur l'enseignement de l'Église catholique. Donc, où que l'on soit, quoi que l'on prenne comme repère pour le monde aujourd'hui, on peut retrouver l'Église et l'Église en Afrique, en particulier en République démocratique du Congo.
D'accord. On me dit que Jean-Luc Moutoussamy a pu nous rejoindre dans la discussion. On avait quelques soucis pour l'avoir. Jean-Luc Moutoussamy est journaliste, directeur du cabinet Média Expertise et qui fait partie des 75 journalistes accrédités pour la visite du pape. Alors Jean-Luc, merci de nous rejoindre quand même pour quelques minutes. Et on était sur la discussion sur l'avenir de l'Église en Afrique. Sur quel message, selon vous, l'Église devrait s'appuyer, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, au moment où la religion, de façon générale, toutes les religions un peu semblent reculer, en tout cas en Occident?
Alors ce matin, on a eu un peu la réponse, c'était avec les jeunes. Les jeunes, le renouvellement et cet accueil que les jeunes ont réservé au Saint-Père dans ce stade des martyrs, eh bien, c'est un accueil qui prouve, qui démontre qu'il y a déjà un intérêt pour être présent. On ne déplace pas des jeunes comme ça. On sait très bien que dans certains de nos pays, pour se déplacer, s'il n'y a pas une enveloppe, s'il n'y a pas un gâteau, s'il n'y a pas une récompense, sous quelque forme que ce soit, eh bien, on ne vient pas. Et là, c'était totalement gratuit. Ils venaient pour rencontrer le pape. C'est une rencontre d'abord pour discuter, pour écouter, pour prendre le maximum de ce moment-là, pour se retrouver. Ils étaient, vous savez, ils sont venus très tôt. Ils sont venus, ils ont fait la queue, ils ont attendu, ils ont chanté, ils étaient sous le soleil. Ce sont des jeunes connectés. Donc ce sont des jeunes qui n'ont pas de temps à perdre. Ils sont venus, ils étaient là, ils étaient bien présents.
D'accord. Alors, Jean-Claude, pour vous, quel... Comment, Jean-Claude Djereke, quel est un peu l'avenir du catholicisme en Afrique?
Bon, je confirme ce que Jean-Baptiste Malengue a dit, à savoir qu'il y a une progression, une croissance de l'Église en termes de vocation, en termes de baptisés, en termes de mariage. Chaque année, on enregistre plusieurs... Donc, c'est baptisé, plusieurs mariages. C'est un fait, c'est indéniable. Mais la question qu'il faut se poser est celle-ci. Est-ce que la qualité suit, n'est-ce pas, cette quantité-là? Moi, c'est cette question qu'il faut se poser. Et moi, ce que j'observe, c'est que il y a, par exemple, ce phénomène de sorcellerie, hein, ou bien de maladie. Quand les gens, les chrétiens, lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de problème, qu'est-ce qui se passe? eh bien, les gens ne vont pas vers les prêtres. Ils vont aller voir le marabout, ils vont voir le féticheur, ou bien ils vont aller dans les églises dites du réveil. Vous voyez, donc c'est comme si les gens étaient assis entre deux chaises. Vous voyez, donc ça c'est un problème ça. Il y a aussi le problème de la solidarité dans l'église catholique. Moi je vois beaucoup de jeunes diplômés hein, qui sont au chômage, qui viennent dans les églises.
D'accord.
Vous voyez, or dans ces églises, il y a par exemple des gens, des fidèles, qui sont fortunés, qui sont chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font pour ces jeunes qui sont sans emploi hein? Le pape a écrit une encyclique Fratelli Tutti. Il parle de la fraternité, la solidarité. Est-ce que j'ai vécu dans cette église d'Afrique?
D'accord, voilà, la question de la solidarité, on pourra y revenir. Alors, on va essayer de retourner à Kinshasa avec Jean-Luc. Jean-Luc, est-il temps pour vous, selon vous, d'avoir un pape africain? Est-ce que c'est une question importante, vous pensez?
Je pense que c'est trop prématuré d'en parler déjà. Bien sûr, tous les continents mériteraient d'avoir un pape, hein, je veux dire le continent asiatique, le continent africain aussi. Il y a des hommes de qualité qui pourraient occuper cette place. En termes de légitimité, évidemment, on pourrait dire, voilà, l'Afrique, le Congo, par exemple, sur le continent, c'est le premier pays. Si les cardinaux votaient ainsi, je crois qu'on saurait déjà depuis très longtemps qui serait le prochain pape. Donc, je pense que c'est prématuré, mais évidemment, en Afrique, sur le continent, il y a des hommes, des cardinaux qui sont des hommes qui pourraient occuper cette place. Mais je n'aime pas trop ce côté quelque chose est dû, parce que non, ce n'est pas forcément dû. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce pape actuel, c'est un pape du Sud. D'accord. Moi, je me dis, c'est intéressant de voir comment un pape du Sud réagit sur certaines questions.
Alors, puisque vous nous avez rejoint un peu tard dans l'émission, je reste avec vous, Jean-Luc. En tant que journaliste qui est venu couvrir cet événement, quelle est un peu votre impression de façon générale? Quelle est votre impression de cette visite du pape en RDC?
Je pense que c'était quelqu'un qui était très attendu. Il a provoqué énormément de joie. La RDC avait besoin d'une expression de joie, d'une expression de réconfort aussi, de se retrouver en famille. Nous n'avons croisé que des gens heureux depuis que nous sommes là. Depuis que nous avons atterri avec Jean-Baptiste Malengue, nous n'avons vu que des gens heureux. Et cette actualité heureuse de la RDC, moi je suis très fier de pouvoir en parler. Parce que ce pays où j'ai travaillé il y a quelques années, on le voit toujours dans des nouvelles qui ne sont pas forcément réjouissantes. Donc je pense qu'au niveau international, montrer qu'on peut être heureux en RDC, qu'on peut sourire, qu'on peut vivre parce que les gens vivent, qu'on peut chanter, qu'on peut danser, c'est important. Et je crois que quand le pape permet ça, avec sa venue, il permet aussi de voir ce pays sous une autre forme.
Alors, en 30 secondes, pour terminer, disons même 20 secondes, ensuite c'est le Soudan du Sud, un pays que vous connaissez également. Un mot sur ça en 20 secondes.
Alors là, ça sera une manière de tester le plus jeune pays au monde et de tester jusqu'à quel point l'Église peut aider à changer et à faire en sorte que ce conflit s'arrête.
Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci énormément à nos invités et à vous que nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
Se raconte et se rencontre. les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
Les